philosophie première, la personne humaine, par le père Marie-Dominique Philippe, le 10 décembre 1998 à Saint-Jodard.
Au dernier cours, vous nous disiez que pour être vraiment autonome, il faut savoir pourquoi on l'est, sinon on reste parti d'un tout. De quel niveau d'autonomie s'agit-il ici? Pourquoi la connaissance du pourquoi je suis autonome est-elle si nécessaire? Attention, nous faisons une analyse. Nous analysons ce qu'est la personne humaine par rapport aux différents aspects de la réalité. La réalité que nous découvrons. Spirituelle. Notre âme spirituelle, est-ce qu'elle ne sait pas tout de suite si elle est spirituelle par l'intelligence ce qu'elle est? Alors, il n'y a pas une conscience ontologique, métaphysique, c'est évident. On saisit une réalité à ce niveau fondamental de la substance qui implique cette autonomie. Et on sait bien ce que nous verrons ensuite, ce que nous expliciterons, que je ne peux pas m'arrêter là. Mais autre chose distinguée, autre chose séparée. Je suis d'accord que l'autonomie est découverte avant le pourquoi de l'autonomie, puisqu'on distingue la substance. Mais en distinguant la substance au niveau, non pas du principe comme tel, mais au niveau de la manière dont elle existe en impliquant point de vue de l'acte. C'est pas ça, formellement, qui est l'autonomie et qui est impliqué dedans. Je ne peux pas le séparer. Nous sommes dans la recherche du pos, du comment. Et c'est deux niveaux différents. Et c'est ça qu'il faut bien saisir. Nous avons fait précédemment les inductions. On induit la substance. On induit l'acte. C'est-à-dire, on saisit un principe, la substance, l'âme. Et on saisit ensuite l'acte. Je saisis la substance comme ce qui est distinct formellement de l'acte. Mais pas du tout qu'elle existe indépendamment de l'acte. Donc elle n'est pas séparée. Vous n'avez jamais une substance qui subsiste toute seule, indépendamment de l'acte. Nous saisissons, nous, maintenant, avec le problème de la personne, le comment, le pos. Alors le pos, c'est ce retour à la réalité existante. Le principe, la personne, c'est le retour à la manière dont existe la substance. Ma substance existe pour moi d'une manière personnelle. À la différence la nature d'un animal qui, elle, existe sans cette conscience, sans la finalité explicite. Elle n'est qu'instinctive. Tandis que la personne, c'est pas exister avec une finalité instinctive. C'est celui qui est capable de s'ordonner. Il faut donc qu'il ait conscience. Et ceci est fondamental en lui. Ça touche sa réalité dans ce qu'elle a de plus fondamental. Et c'est dans ce sens-là qu'elle implique. Ce n'est pas formellement la substance qui m'explique le pourquoi, c'est l'acte. Mais la substance qui subsiste implique l'acte. C'est ça qui... Il suffit tout simplement de réfléchir à quel niveau vous situez votre recherche. Nous avons bien précisé que la recherche de la substance n'est pas au niveau des principes. Elle le présuppose. Il y a le double mouvement, René. Le mouvement de la recherche des principes, c'était tout le cours, les cours précédents. La recherche des principes par le point de vue de l'induction. Une fois que vous avez saisi les principes, vous revenez à l'expérience. Je suis. Quand vous dites je suis, vous n'êtes pas au niveau des principes. Mais ayant découvert les principes, vous pouvez éclairer le je suis dans la lumière du principe. Là, vous avez le pos, le comment. Votre conscience de votre personne est au niveau du comment et pas au niveau du principe. Le principe est présent en acte, mais ce n'est pas lui que vous explicitez. Ça est explicité dans la saisie inductive du principe. Ayant saisi inductivement le principe, vous revenez au « je suis » et vous éclairez le « je suis » avec le principe. Je suis, et dans mon « je suis », il y a cette découverte de mon autonomie dans l'ordre de l'être. Je suis autonome dans l'ordre de l'être. C'est-à-dire que je suis indépendant de mon voisin, indépendant de mes parents. Mon autonomie dans l'ordre de l'être est fondamentale. Elle repose sur ma substance. Et ma substance, c'est mon âme. Mon âme spirituelle ne dépend pas de mes parents. Je suis indépendant d'eux. Et je mets du temps à le découvrir. On n'a pas encore découvert son indépendance en son être. Il y a une découverte au niveau métaphysique, pas au niveau psychologique, parce qu'au niveau psychologique, vous saisissez toutes les dépendances. Je suis l'animal qui est né dans la plus grande dépendance. Avec le petit mouton, quand il naît, il combat de très vite. C'est-à-dire que le petit être humain qui vient de naître, il faut l'action du Saint-Esprit pour qu'il bondisse dans le sein maternel. personne l'autonomie substantielle. Je suis autonome et indépendant de tous ceux qui sont autour de moi et qui, d'une certaine manière, font partie de mon milieu. Humain, je le sais bien, et ma personne se développe dans ce milieu humain. Mais ma personne a comme première dimension cette autonomie qui ne veut pas dire indépendance. C'est pas la même chose. La dépendance est au niveau psychologique. La dépendance, nous le verrons ensuite. C'est ce que Feuillard parle n'a pas saisi. Il dit, il y a l'autonomie et je suis créé. Je peux être créé comme un être autonome. Ça dépasse Feuillard. Si je suis créé, je suis dépendant, donc je ne suis pas autonome. Très facilement, oui, nous faisons la confusion. Feuillard a fait tout le temps la confusion. Si vous êtes créé, vous ne pouvez pas être autonome. Pas du tout. L'autonomie regarde la qualité de mon être. C'est que mon être a quelque chose de premier principe. Ce au-delà de quoi je ne peux pas aller. Le principe. J'ai en moi cette qualité d'être principe. Dans l'ordre de mon être. Et l'aspect substantiel de mon être fait partie de ma personne. Et ma personne s'enracine dans cette autonomie. Et vous retrouvez là ce que Boès, ce que Thomas d'Aquin a affirmé. Substance individuelle. Individuelle, c'est bien mon âme créée dans mon corps. Alors, je ne peux pas dire encore créée. Au plan philosophique, je veux dire mon âme existante dans mon corps, qui me donne une autonomie radicale. Mais dans l'exercice naturelle. Et j'ai la possibilité de quoi? ou un abîme, si vous aimez mieux. C'est plutôt un abîme. On passe d'une manière d'être à une autre manière d'être. Et je tenais la main à celui que j'aimais et qui termine sa vie. Et à un moment donné, ce n'est plus sa main. Celui-là. dire Heidegger. L'expérience métaphysique de votre être qui a cette autonomie radicale de pouvoir se remettre à sa source. En sachant que là, je suis seul avec Dieu. Et que personne ne peut toucher ça. Et l'autonomie du premier moment de votre âme, vous n'en avez pas eu l'expérience, et moi non plus. Certains cherchent ça, d'avoir l'expérience de la création de l'âme. Je leur dis, cherchez. Ils cherchent indéfiniment, ils ne trouveront pas. Ça fait partie de la pesanteur de mon être. Pour moi, je suis né dans les ténèbres. Et vous aussi, du reste. Dans vos ténèbres. Et vous n'avez pas l'expérience de ce premier moment. Mais vous pouvez avoir l'expérience de cette remise fondamentale in manus tuas dans les mains du Créateur. Si vous avez découvert l'existence de Dieu, si vous l'avez découvert métaphysiquement, si vous y croyez au plan théologique, ou si vous appuyez sur les traditions religieuses, je m'en remets à ma source. Et je sais que cette source ne peut pas m'abandonner. Les hommes peuvent me rejeter. Les hommes peuvent faire que je ne suis plus de ce monde. Mais ils ne peuvent pas toucher à ce lien qui fait partie de mon autonomie. À ce lien radical que je découvre dans l'adoration, où je me remets au geste actuel du Créateur. Et je me retrouve auprès de lui. C'est au fond ça, découvrir la personne humaine. Alors, vous découvrez là tout de suite, voyez, l'aspect ultime de la personne humaine qui présuppose l'existence de Dieu, qui présuppose la découverte du Créateur. Alors, vous pouvez très bien, par rapport à notre recherche philosophique, et là, il y a un problème que je n'ai pas encore résolu. J'ai découvert ce qu'est le principe propre de ce qui est selon la forme. J'ai découvert ce qui est le principe propre selon la fin de la réalité, de ma réalité, l'acte. Et je ne sais pas encore d'où je viens dans mon âme spirituelle. Mais, voyez, c'est ça qui me semble très intéressant, c'est que le problème de la personne exige de poser le problème de l'existence d'un être premier. Le dernier pourquoi métaphysique, existe-t-il un être premier? Existe-t-il une source de mon autonomie au plan métaphysique, pas au plan psychologique? Ça, la psychologie ne peut rien dire là-dessus. Rien du tout. La psychologie n'explique pas l'adoration. Il ne peut pas l'expliquer. Parce qu'il faut découvrir. découvrir la source de l'être, la source de mon autonomie dans mon être. Et c'est là où ce problème de la personne, au plan métaphysique, au plan philosophie première, est si important. Parce que ma personne, très bien, c'est sûr, j'ai cette autonomie, mais elle est limitée. Elle est limitée. Un jour, je mourrai. Même si j'ai beaucoup de travail, hein. Même si je suis en train d'écrire un livre, je mourrai. Il n'y a que l'adoration qui peut me pacifier. Sans l'adoration et en restant au niveau du travail humain, l'imminence de la mort, loin de me pacifier, m'angoisse. Ça c'est sûr. Et c'est là le problème ultime de la personne. Alors comme c'est le problème ultime, je peux tout de suite te situer dès le point de départ. Parce que dès que je suis au niveau de la personne, je suis au niveau de l'esprit. Et donc si je suis au niveau de l'esprit, ma fin, elle est là présente. Je ne suis pas dépendant du temps. Grâce à Dieu. Et donc pour découvrir parfaitement mon indépendance, je dois me poser la question, et cette indépendance, elle est limitée dans le temps. Et c'est pour ça que Maritain veut ajouter une sixième preuve après les cinq de Thomas d'Aquin, qui est l'expérience du temps et de la mort. Et je ne crois pas, parce qu'on est dans l'ordre du comment. On ne pouvait pas prouver Dieu dans l'ordre du comment. Et il faut le point de vue métaphysique de l'être, du bien au plan métaphysique pour découvrir le sens de Dieu. Mais on comprend que il touche là un point ultime, où tout touche le drame métaphysique. S'il y a un drame métaphysique, c'est bien là. Vous découvrez votre ennemi métaphysique, c'est très très beau. Ne me touche pas. Tu n'as pas le droit de me toucher dans mon être. Ne me touche pas. Là. C'est le domaine réservé à Dieu et à Dieu seul. Si j'ai posé le problème de Dieu, si je n'ai pas posé le problème de Dieu, je dis, là, c'est mon domaine. Personne ne peut y toucher. C'est mon autonomie fondamentale. L'esprit. De mon âme spirituelle. Et je comprends très bien que il y a là un drame au sens le plus fort et qui a toujours touché tout l'art dans ce qu'il a de plus fort. Je suis autonome et je ne suis pas maître de ma fin, de la fin de mon parcours humain. La mort arrive quand elle veut. Et je ne parle pas en regardant Dieu, je regarde avant d'avoir découvert le sens de Dieu. La mort existe d'une façon fatale. Et c'est la foi. arrêter mon exister. Je ne sais pas ce qu'il y a après, philosophiquement parlant. Je ne sais pas ce qu'il y a après. Mais je touche quelque chose qui est une limite, une barrière. Et on comprend que là, vous touchez le drame métaphysique. Indépendance et la limite de votre indépendance. Cette limite de votre indépendance qui fait que vous n'êtes pas le maître de la mort. Si vous étiez totalement indépendant, vous pourriez accepter ou pas accepter la mort. Et à un moment donné dans votre vie, il y aurait ce petit contrat fait avec Dieu. J'accepte la mort. Ou bien la révolte, je ne l'accepte pas. Fondamentalement, ceux qui prétendent être complètement indépendants, complètement autonomes, revenez à ce problème-là. Et là, comme ça touche la limite de l'autonomie, où on l'accepte, et alors on est dans un état de paix, où on se révolte dans un état d'irritation. Qu'est-ce qui ose agir sur moi dans ce qu'il y a de plus fondamental? L'acceptation. Ou le refus de la mort. Et si je réfléchis, je sais très bien que je suis coincé. Parce que même si je refuse la mort arrivera. Alors je dirais, c'est pas juste. C'est pas juste. Parce qu'on n'a jamais compris sa limite. Et que le problème de l'autonomie métaphysique de la personne, c'est là où se situe le problème de la mort, au plan métaphysique. Et on doit le traiter depuis que les existentialistes ont défini l'homme comme l'être ordonné à la mort. Confond le destin et la finalité. Au point de vue destin, je suis ordonné à la mort. Pas au point de vue finalité. Alors quelle différence entre les deux? C'est important, parce que l'existentialisme a défini l'homme comme relatif à la mort, comme dépendant et ordonné à la mort. Alors, voyez là tout de suite la limite fondamentale de mon autonomie. La mort. Que je n'ai pas décrété, que je n'ai pas décidé, que je n'ai pas aimé. J'ai essayé de l'écarter le plus possible de moi, dans l'ordre des dispositions. Je peux maintenir une santé florissante et ne pas me percevoir qu'un jour ce sera. La mort tombe comme ça dessus, indépendamment, parce qu'elle dépasse toutes les conditions. Et c'est ça, vous voyez, dans toutes les traditions religieuses, on voit ça. Et c'est la mort qui est la même pour tout le monde. Il y a cette idée très très profonde. L'autonomie me distingue. Je suis seul dans mon autonomie, seul avec celui qui est mon créateur, si je l'ai découvert. Et c'est parce que je suis seul dans cette autonomie que tout de suite la question se pose, y a-t-il quelqu'un avant moi? la mort qui est commune à tous les hommes. Qu'on soit cardinal, qu'on soit pape, qu'on soit gendarme, qu'on soit roi, qu'on soit serviteur, c'est la même. Extraordinaire, c'est la même. Universel concret, négatif, c'est la négation qui est là, vous sentez le destin, la négation qui est là à ma porte, qui va s'appliquer à quoi? Et ce problème de l'autonomie de la personne humaine me conduit à cela. Si je veux le traiter, alors est-ce que la mort détruit cette autonomie? C'est la question qui se pose tout de suite. Est-ce que la mort détruit cette autonomie? Non. La mort rappelle que cette autonomie n'est pas infinie. Que cette autonomie est substantielle, donc radicale. Mais que cette autonomie, dans sa modalité concrète et relative, ce dont je fais l'expérience tous les jours, en ce sens que je ne maîtrise pas tous les conditionnements humains et le mien. Je voudrais bien les conditions, les maîtriser. Je ne maîtrise pas. La mort vient briser un conditionnement de ma vie humaine, celui que j'expérimente maintenant. Mais la mort ne touche pas la substance de mon âme. La mort ne touche pas les principes propres de ce qui est en tant qu'il est. La mort n'est pas le néant. La mort n'est pas la néantisation. La mort, c'est la brisure d'un certain état de vie. Mais elle ne brise pas l'être. La mort est au niveau du vivant. La mort, comme l'évolution, c'est au niveau du vivant. Et c'est ce qui vient supprimer telle manière de vivre. C'est dans ce sens-là que toute maladie annonce la mort. Plus ou moins proche, annonce la mort. Parce que l'état de vie que je mène peut être empêché par la fièvre. Je suis obligé de rester couché. Je me lève et je titube. J'arrive pas. Donc c'est l'état de vie. C'est mon conditionnement humain actuel qui implique toute une série de choses. Mais la mort ne touche pas le principe d'autonomie de mon âme. Ah, c'est évidemment, c'est le précipice. Hein. Je peux aller jusque-là, après, je ne sais plus. Je peux aller jusqu'au moment de la mort. séparation de l'âme et du corps. C'est ce que je dis. Mais quand je dis séparation de l'âme et du corps, hein, je me trouve devant l'abîme. Je n'ai pas le résultat. Je vois la fin de la bataille, mais je n'ai pas le résultat. Est-ce qu'il y a du côté immortel? Ce qu'il y a du côté immortel, je ne le vois pas, moi, parce que je le vois chez les autres, mais pas chez moi. Regardez son état cadavérique. Je ne sais pas ce que ça représente. Ça, non, je ne veux pas faire un corps sur... Je veux pas faire un cours sur la métaphysique du cadavre. Parce que je n'en ai pas l'expérience. Elle est médiatisée. Il y a une limite là. Mais je peux, ayant saisi ce qu'est la métaphysique et ce qu'est l'esprit, comprendre qu'il y a dans mon âme spirituelle, dans mon âme humaine, quelque chose qui résiste, qui n'est pas atteint par la mort. Ce qui fait partie du dépassement de mon conditionnement, de l'état dans lequel je vis actuellement. Il y a quelque chose en moi qui dépasse. Et c'est ce quelque chose en moi qui dépasse que nous allons étudier ensuite. Et que j'expérimente déjà maintenant. Et alors, je peux dire, je touche par la maladie l'ébranlement de ma situation actuelle, de mon situs, de mon conditionnement, dans ce qu'il a de plus foncier. Je touche là. Mais je n'ai pas l'expérience de ceux qui demeurent après ces grandes secousses. Après cette grande secousse. Parce qu'il n'y en a qu'une secousse hein, dans toute ma vie, c'est la mort. Toutes les autres sont des secousses secondaires qui annoncent. Ils sont secondaires. On se ravistole comme on peut. Et on continue de courir. Mais la secousse radicale, c'est celle-là. Et là, je ne peux plus. Je n'ai pas l'expérience. Mais je sais, métaphysiquement, que mon âme spirituelle, que ma substance spirituelle ne peut pas être atteinte directement par la mort, parce qu'elle est incorruptible, au-delà de la mort. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas définir la mort par le point de vue métaphysique. Ce serait la néantisation du principe de l'âme. Celui qui ne distingue plus entre l'âme et le corps, lui, est obligé de parler de néantisation. Mais on sait que c'est pas juste, dès qu'on a découvert la distinction entre l'âme et le corps. Et c'est pour ça que c'est si important de découvrir la distinction de l'âme spirituelle et du corps. Parce qu'à ce moment-là, vous pouvez comprendre qu'il y a un support intellectuel à l'immortalité. Tandis que si vous ne saisissez pas cela, c'est l'anéantisation. La mort et l'anéantisation. Et au fond, vous voyez, là, le fondement de la liturgie religieuse, du respect du corps, brisant ce conditionnement, elle brise mon être. Alors, brisant mon être, c'est l'anéantisation. Et normalement, il n'y a pas de cérémonie religieuse pour l'anéantisation. Il ne peut pas y en avoir. C'est purement subjectif. Ce sont tous ceux qui pleurent l'anéantisation qui se réunissent. Ah, c'est morbide. Tandis qu'au contraire, le fait de savoir qu'il y a quelque chose qui reste, qui demeure, donne l'espérance. L'espérance humaine. Il y a une espérance humaine. Parce que humainement, on sait que l'esprit ne peut pas mourir, que l'esprit échappe à la mort. Donc dès que je touche le problème de la personne, je touche tout de suite le problème qu'il y a quelque chose au-delà de la mort. Et ça m'aide, au plan métaphysique, ça m'aide à comprendre l'importance de cette précision que la personne a une autonomie radicale dans l'être qui est au-delà du destin. Le destin le plus absolu, c'est la mort. Si vous montrez qu'il n'y a pas de destin de la mort, vous supprimez le destin. Et vous comprenez qu'il y a au contraire une providence de celui qui a été à l'origine de ma naissance. De ma création, la création de mon âme. Et là encore, ça montre bien que le problème de la personne humaine est capital. Pour dépasser le point de vue du destin. Destin implacable de la mort. Cela a un sens pour celui qui ne distingue plus le point de vue de l'âme et du corps. Ça n'a pas de sens autrement. Donc vous voyez, l'autonomie implique une limite. Mais l'autonomie existe fondamentalement. Vous nous avez dit que notre âme est individuel et que tout principe a un mode universel. Mon âme est créée dans mon corps. Mon âme, ma substance, subsiste dans mon corps. C'est dans ce sens-là qu'elle est individuelle. Mais quand je saisis